qu'avec Anem. Bonjour, 10e numéro de Cave Canem, c'est fait. Aujourd'hui, tout le monde est habillé en clown jovial. Bonjour Mehdi Madavi de Diapason et Delta Musica.
Bonjour Camille.
Tu as bonne mine, Mehdi.
Merci.
Sylvain Ford de Classica et de ForumOpera.com. Bonjour Sylvain.
Bonjour Camille.
Et Lawrence Dale, notre consultant choc et charme, qui nous vient tout droit du Surrey, c'est ça ?
Sussex,
pardon. Bien entendu, je ne rappelle pas la longue carte de visite quasi crépusculaire de Lawrence Dale, sa carrière qui passait par Salzbourg, Paris et le Marais Poitevin. Enfin, on en reparlera plus tard. Aujourd'hui, on a un programme extrêmement chargé car nous parlons de quatre disques d'actualité dont un est sorti, il est vrai, il y a quelques mois. On va commencer une nouvelle fois, et je suis désolé, je vous présente mes excuses si ça vous choque, par un disque de Gerald Finlay. C'est en effet la deuxième fois en l'espace de 2 mois que nous parlons de Gerald Finlay, et il faut imputer ça sur ma folie monomaniaque pro-Gerald Finlay. On l'entend ici, en fait, dans un récital capté live au Wigmore Hall avec Julius Drake. C'est un récital axé sur le thème de la guerre, de la tristesse, donc rien de très joyeux. Et pourtant, on va entendre un extrait extrêmement joyeux. C'est un bis, le dernier bis du récital, et ça s'appelle The Green-Eyed Dragon.
Once upon a time lived a fair princess, most beautiful and charming. Her father, the king, was a wicked old thing with manners most alarming. And always on the front door mat, a most ferocious dragon sat. He made such an awful shrieking noise, so all you little girls and boys beware. Take care of the green-eyed dragon with the 13 tails. He'll feed with greed on little boys, puppy dogs, and big fat snails. Then off to his lair each child who drag, and each of his 13 tails he'll wag. Beware, take care, and creep off on tiptoe. And hurry up the stairs and say your prayers, then duck your heads, your pretty curly heads, beneath the clothes, the clothes, the clothes. That dragon, he lived for years and years, but he never grew much thinner. For lunch he'd have a policeman pie or a roast MP for dinner. One brave man came round with an axe and tried to collect his income tax. The dragon he smiled with fiendish glee, then sadly murmured, R.I.P. Beware, take care of the green-eyed dragon with the 13 tails. He'll feed with greed on little boys, puppy dogs, and big fat snails. Then off to his lair each child he'll drag, and each of his 13 tails he'll wag. Beware, take care, and creep off on tiptoe. Then hurry up the stairs and say your prayers, then duck your heads, your pretty curly heads, beneath the cloth, the cloth, the cloth. That dragon went down to the kitchen one day where the fair princess was baking. He ate by mistake some rich plum cake which the fair princess was making. That homemade cake he could not digest. He moaned and he groaned and at last went west. And now his ghost with bloodshot eyes at midnight clanks his chains and cries, beware. Take care of the green-eyed dragon with the 13 tails. He'll feed with greed on little boys, puppy dogs,
And then off to his lair each child he dragged, and each of his 13 tails he wagged, beware, take care, then creep off one tiptoe, then hurry up the stairs and say your prayers, and duck your heads, your pretty curly heads, be the clothes, the clothes, the clothes!
C'était The Green-Eyed Dragon, et pour ceux qui n'ont pas la chance de manier la langue de John Major, Green-Eyed Dragon, ça veut dire le dragon aux yeux verts, et ce dragon mange des tartes de policiers et des parlementaires rôtis. On ferait bien de s'en inspirer. J'en profite pour remercier Benoît Butner, l'attaché de presse d'Abeille Musique, qui nous apporte des cafés. Alors, ce récital enregistré live en 2007, Mehdi, toi qui adores les dragons verts, qu'en as-tu pensé ?
C'était un plaisir de retrouver Gerald Finlay juste après son récital Ravel, décuplé par le fait que c'est une prise de son live et que finalement elle est bien meilleure que celle du récital Ravel que nous avions déploré tous autant que nous sommes dans ce studio.
Nous avions tous dit énormément de bien de ce récital, nous avions daubé la prise de son qui pour le coup était ignoble.
Oui, ce qui me fascine chez ce chanteur, par-delà la beauté intrinsèque de la voix, c'est le rapport à la langue. Son français était merveilleusement cultivé, c'est aussi le cas de son russe, aussi loin que je puisse en juger après quelques études de russe un peu lointaines, c'est vrai. Mais sa diction est absolument fabuleuse, que ce soit dans Tchaïkovski, on sait que c'est un grand interprète d'Eugène Onéguine, comme dans les chants et danses de la mort de Moussorgski. Voilà, c'est quelque chose, le rapport à la langue qui me touche d'emblée énormément, mais il y met aussi du sens, mais tout en sobriété, parce qu'on a l'habitude, notamment dans les Moussorgski, d'entendre pas mal de débordement, que ce soit chez certaines basses ou chez certains sopranos.
Mais c'est parfois un peu le vérisme soviétique.
Voilà, hein. Là, ici, c'est une grande sobriété. Et puis, il y a, comme le disait Camille, les songs de Ned Roram et puis, bien sûr, ce bis qui montre sa capacité à switcher dans un tout autre registre.
Dans un tout autre registre. Voilà. Sylvain, peut-être un mot sur ce récital, toi qui es le spécialiste incontesté de ce répertoire.
Oui, tout à fait.
Il faut dire pour les amateurs de Forum Opéra que vous retrouverez une courte vidéo de ce podcast sur le site en streaming que Sylvain vient de découvrir à l'instant qu'il était filmé et qu'il a les yeux ébahis comme un lapin pris dans les phares d'une Mercedes-Benz.
Le répertoire russe pour moi, c'est un peu ma grand-mère. Et j'ai trouvé que la prononciation de Gerald Finlay a été plus proche de la prononciation moscovite que de la prononciation pétersbourgeoise. Et je me suis demandé si c'était volontaire de sa part. Si c'est volontaire, je crois que c'est une erreur artistique majeure. Non, c'est vrai. D'autant que Julius Drake, pour sa part, a un amant russe bien caché depuis très longtemps à Saint-Pétersbourg. Et je ne comprends pas ce choix. Il faudra qu'on me l'explique. Ah, maintenant que je ne suis plus filmé, je peux peut-être enfin dire le fond de ma pensée. Que ce disque est tout à fait réjouissant et que j'ai le sentiment d'une prononciation extrêmement, extrêmement bonne du russe, parce que moi qui ne parle pas un mot de russe, j'ai retrouvé des accents qui me faisaient penser à ceux du restaurateur russe dans Tintin.
Lawrence, tu as l'air un peu perplexe ?
Oui, parce que, enfin... je comprends certaines réserves de Sylvain, mais il faut dire que la voix est très virile. C'est très vécu, je veux dire. Il y a beaucoup d'émotions, d'expressions, je trouve, dedans. C'est-à-dire que je trouve que c'est une voix magnifique. C'est un artiste, artiste exceptionnel, sur scène autant que en récital ou sur disque. Je trouve que l'acoustique est mille fois mieux que la dernière fois qu'on a entendu les Ravel. Mais il faut dire que c'est capté en live, le public est complètement séduit. Ah. Et quand même, il y a des moments où on dit que l'acoustique n'est pas parfaite. Mais actuellement, si on regarde bien ce qui se passe dans la carrière de M. Finley, il enregistre sans cesse. Chaque deux mois, il a un disque de lui qui sort. C'est-à-dire qu'il est très demandé, il est très respecté, il chante dans le monde entier, dans toutes les langues. Et je trouve que c'est un artiste extraordinaire. Je trouve la couleur de sa voix très fascinante. Ce disque va donner beaucoup de plaisir.
Si on a pas...
Oui, là, ça c'est.
Nous
c'est,
allons
c'est
passer
mieux.
Au disque suivant, si vous le permettez. Il s'agit d'un disque sorti il y a plusieurs mois, mais Mehdi Madhavi a insisté à genoux devant moi.
Mais pas du tout.
Mais si, tout à fait, pour que nous le programmions, car Theodore Kurensis est son beau-frère. il s'agit, comme vous le savez, de la Dido and Ines, The Person.
Oh! Oh, ça fait mal prononcer comme ça.
On s'en fout, c'est pas grave. Je vais couper au moins.
Dido and Aeneas.
Oh, pardon. Il s'agit bien entendu de Didon et Aîné, The Person, dirigé par Theodore Kurensis. Alors, Theodore Kurensis, on en parlera plus tard. Simplement, à propos de ce disque, la mort de Henry Purcell reste un mystère. Alors, prosaïquement, certains le voient frappé de tuberculose, comme Sylvain Faure aujourd'hui. D'autres avancent qu'il succomba à un empoisonnement au chocolat, ce qui me fait frémir vu la boîte qui trône au milieu de la table du studio. D'éminents chercheurs avancent qu'il serait mort gelé devant sa maison, dont la porte avait été fermée à double tour par son épouse, lassée des incartades nocturnes de son gredin de mari. Henry Purcell savait-il, en voyant ses extrémités bleuir, que plus de 300 ans plus tard, Theodore Kurensis allait transformer sa Dido en une œuvre ethnico-jazz, flirtant tantôt avec des djembés maliens, tantôt avec les soupirs vaporeux de Nina Simone. On écoute « To the Hills ». C'était donc le chœur To the Hills de Dido and Aeneas.
Dido and Aeneas.
Merci, Lawrence. Je crois que tu as chanté ce rôle d'ailleurs.
Le
marin pêcheur.
Non, j'ai mis en scène.
Tu l'as mis en scène. Okay. Alors, tu t'es montré extrêmement excité par cet enregistrement quand on en parlait avant l'émission. Lawrence, tu peux peut-être commencer parce que j'ai l'impression que tu as beaucoup de choses à dire.
Oui. Première chose, c'est somptueux. Et c'est excitant sur le plan, à mon avis, même si c'est ton beau-frère, Mehdi. Mais je trouve que c'est extraordinairement dirigé. Je trouve l'expression vocale exceptionnelle. Je trouve le New Siberian Singers, qui font l'ensemble.
C'est le chœur,
ouais. C'est extraordinaire. Et en plus, en général, l'anglais est très, très bien. C'est un peu maniéré à froid, parfois, mais c'est...
À froid pour des Sibériens,
c'est peut-être... Non, par exemple, quand tu écoutes la belle Simone, elle dit « When I am a lady », elle fait trop
On parle de Simone Kermes, qui interprète ici le rôle de Dido, et dont on reparlera plus tard pour son disque « Lava ».
Oui, mais Pavarotti a fait la même chose pendant toute sa carrière, et personne ne le critique. Mais c'est une voix extraordinaire. Et
Pavarotti a rarement chanté du Purcell aussi.
Oui, mais il a chanté les petits voyelles entre les consonants. C'est ça que je voulais dire.
D'accord.
Mais elle a une sens d'intonation extraordinaire, une implication harmonique qui est absolument séduisante et remarquable. Et puis, j'ai rarement entendu une justesse d'harmonique et d'implication d'harmonie, surtout dans les chorales. J'ai un seul problème, et c'est que je considère qu'en général, on représente mal cette œuvre. Cette œuvre est... J'ai fait beaucoup de recherches sur cette œuvre, il faut le dire, je ne dis pas que ça légèrement. C'est une œuvre qui n'est pas du tout prise au sérieux. C'est une espèce de gag. C'est une blague sur la mythologie et tout le monde traite comme une espèce de messe. Et il faut le dire que j'ai pris un énorme plaisir avec ce disque énorme. Je vais réécouter plusieurs fois.
Non, mais tu n'es pas obligé, tu peux le mettre à la poubelle tout de suite.
Oui, je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas de mauvaise foi. Alors, non, mais je trouve que c'est absolument irrésistible, c'est magnifique, mais j'ai un problème de base. Je trouve que l'œuvre est beaucoup plus rigolote qu'on prend habituellement et que j'attends voir un peu plus souvent jouer dans l'esprit dans lequel c'est écrit.
Mehdi,
j'ai pas tout à fait compris ce que vient de dire Laurent. J'ai l'impression que j'ai un contresens. Est-ce que ça doit être plus drôle ou moins drôle? J'ai pas compris.
L'idée, à l'époque de Nahum Tate, tous ces gens-là, c'était l'habitude d'écrire les parodies de mythologie. Et ça, cette œuvre-là est une parodie. Et c'est écrit pour faire rire. Et c'est pour cette raison que ça faisait scandale quand c'était présenté à l'école de Josiah Priest. Mais c'était écrit évidemment pour le cours de Charles II. Qui était une cour bourrée de plaisir et de bonheur. Et c'est pour cette raison...
Il y était, d'ailleurs.
Je m'appelle bien. Mais d'ailleurs, c'est basé sur les expériences de la cour en France, en exil. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de musique dans cette œuvre écrite dans le style à la française, si on veut. Et je trouve que comme on a du mal à l'époque à trouver les choses dans le répertoire anglais, on a pendant longtemps dit que c'est une œuvre très stérile, très, très dramatique, très... Mais enfin, c'est bourré de gags, double entendre, comme on dit en anglais, qu'on ne dit pas en français, mais il y a des choses, des références pour les épées, qui ont des gouttes de sang partout parce que en parlant de vierge, de la reine, je veux dire, c'est assez mauvais goût. Et c'est pour cette raison que ça faisait un choc à l'école avec les jeunes filles. Mais c'est une œuvre très complexe sur le plan que ce n'est pas écrit dans la même manière qu'on pense aujourd'hui.
Mais justement, en écoutant cette interprétation de Kurensis qui est tout sauf orthodoxe, on pourrait dire que ça va dans ton sens.
Oui, mais c'est le travail, la recherche d'harmonique, c'est tellement merveilleusement fait.
Oui, mais il y a un côté jubilatant, un côté débordant.
Ça, c'est certain, c'est certain, mais...
J'ai justement un petit côté bling-bling même, non ?
En même temps, il tient une ligne qui, pour moi, tient d'une agonie, c'est-à-dire que dès le début, on est confronté à cette Didon, à la voix ça tient au timbre très particulier de Simone Kermès, qui a des transparences comme ça, qui a un côté un peu livide, tout en étant riche d'harmonique, mais il y a un côté un peu livide dans ce timbre.
Elle en rajoute aussi.
Et c'est un peu une agonie secouée de spasmes. Alors ces spasmes, ils ont une racine ésotérique. Moi, je me souviens, j'avais interviewé Théodore Courensis, qui n'est pas mon beau-frère, à l'occasion de sa venue à Paris pour diriger le Macbeth de Verdi. Et il était parti dans des explications absolument incompréhensibles et complètement ésotériques. Et c'est bien ce qu'on a là. C'est-à-dire qu'il va chercher des racines complètement folkloriques, qui servent un propos un peu échevelé, mais qui restent quand même dans une ligne un peu morbide.
Voilà, je trouve que ça, c'est exactement le propos. C'est téléphoné d'avance qu'il y a une tragédie. Et le problème, c'est que la tragédie arrive dans le dernier coup avec Didon abandonné.
On la sent venir avec les sorcières, on sait qu'elles ne sont pas là pour mettre des décorations de Noël.
Non, mais c'est plutôt le propos de l'interprétation autour de Didon, Dido, que veut dire que c'est très dramatique et très apaisé, on dit ça très...
Mais dès les premières mesures, on comprend par la pesanteur de ce qui est écrit qu'il va se passer quelque chose de terrible. Dès le début, la tragédie est là, elle est annoncée.
Oui, mais le problème, si on fait ça dans le théâtre, si on fait ça dès le début, on a un problème parce qu'on n'a pas de development, on n'a pas de théâtralité.
Justement, l'option selon laquelle l'œuvre est l'agonie, une longue agonie de Dido depuis le début jusqu'à la fin, est très intéressante. Une femme face à son destin, et des figures comme ça, l'opéra en compte des dizaines. Non, et c'est ça qui a longuement fasciné et les compositeurs et le public.
Mais je trouve que ça, c'est en général ce qui fait la mauvaise réputation pour les opéras. Parce que si tu commences l'œuvre en agonie et tu n'as aucun répit, le public s'ennuie.
Mais c'est peut-être aussi ça qui est intéressant, c'est que quand on voit l'histoire de l'opéra, on est face à des œuvres qui sont quasiment un manifeste féministe, hein, pour plaindre la condition féminine, à des époques où justement le féminisme n'en était même pas à ses balbutiements.
Dans le 19e siècle, on comprend bien, déjà, ça c'est tout un propos, surtout à Paris, avec l'histoire de la Madeleine et tout cela, avec l'histoire de l'Église, avec l'histoire dans l'opéra, avec des œuvres toutes concentrées sur le rôle féminin. Ça, c'est certain, mais on entre dans un autre débat, vraiment. Mais
on va peut-être écouter l'opinion de Sylvain Faure.
Oui.
Non, moi, en fait, j'ai écouté ce disque sans a priori et j'en suis sorti sans opinion. Et c'est très intéressant de vous écouter parce que je constate en effet que... D'abord, j'ai trouvé ça extrêmement travaillé, et je ne savais pas si c'était raffiné ou maniéré, si c'était sophistiqué ou recherché. Et puis, je crois qu'en réalité, il y a un choix qui fait peser la balance dans un sens plutôt que dans l'autre. C'est le choix de l'interprète principal. Et je crois que le fait même d'avoir choisi Simone Kermès avec les caractéristiques vocales que Mehdi a très bien décrites, je crois fait peser clairement la balance vers quelque chose qui, effectivement, est de l'ordre du creusement de ce qui, dans cette œuvre, est tragique. Et probablement, en écoutant Lawrence, est-ce cela qui m'a un peu déconcerté. C'est-à-dire que moi, je crois que effectivement, c'est une œuvre qui se prête, qui a beaucoup plus d'aspects parodiques et qui s'inscrit dans une compréhension de l'œuvre de Virgile, en fait, un petit peu plus distante à cette époque-là. C'est-à-dire que pour moi, le XVIIe siècle avec l'épopée latine, un rapport un peu compliqué qui n'est pas un rapport de complète admiration.
qui est d'ailleurs qu'on ressent bien dans la Didone et de Cavalli aussi.
Oui, qui finit par un coup de théâtre.
Alors voilà, mais c'est exactement.
Mais moi, c'est oui, tout à fait. Vas-y.
Non, mais simplement par hasard, j'ai chanté, je crois, le première de moderne de Cavalli de Didone que j'ai enregistré d'ailleurs.
Et tout à fait, je te le confirme.
Ah oui, mais
merci. Thomas Hengelbrock.
Oui, mais un chef merveilleux.
Je l'ai chez moi, mais je l'ai mis à la poubelle après la première écoute. Pardonne, tu me pardonneras.
Et ça mérite. Traite-moi ainsi. Oh, merde. Ok, très bien. Alors, mais ce qui était très intéressant, c'est dans les écrits de Porcel, il a dit qu'il a fait ce Didone né après d'avoir étudié les grands maîtres italiens.
Ah.
Mais c'est la suite de ses expériences dans la cour française.
Oui.
Alors, c'est un mélange de n'importe quoi, je veux dire, dans tous les sens. C'est... Mais il y a beaucoup de liens avec le Cavalli que je trouve dans le Porcel. Et c'est pour cette raison, c'est fascinant savoir qu'à l'époque en Angleterre, ce texte est basé sur une parodie plutôt qu'une chose historique.
Moi, je ne connais pas complètement l'histoire de l'arrière-plan comme toi de tout ça, mais... Il me semble qu'au XVIe et au XVIIe siècle, la mythologie, et notamment la mythologie latine, peut-être plus que la mythologie grecque, qui restait un petit peu plus impressionnante pour d'abord moins connue, peut-être, ou moins... On avait avec le latin une familiarité extrême dans les milieux cultivés, et on savait par cœur tout ça. Et la dimension parodique de la littérature latine elle-même et de ceux qui... s'amuser avec la littérature latine à la Renaissance et à l'âge classique au XVIIe siècle, était un tout petit peu plus distancié peut-être que l'enregistrement ne le laisse entendre. Et c'est juste ce que j'ai pressenti, mais je n'ai pas du tout approfondi ce sentiment parce que je ne connais pas assez ni l'œuvre, ni le contexte de l'œuvre, ni la discographie intégrale de l'œuvre. Et donc c'est en vous écoutant que je me dis que peut-être, effectivement, il y a là un parti pris de qui pousse les choses vers une extrême plutôt que vers une autre. Et que, je ne sais pas si c'est dérangeant, mais je trouve ça en tout cas extrêmement intéressant. Et ça m'a fait me souvenir que je crois que ça a eu un accueil critique assez épouvantable,
assez
n'est-ce
épouvantable.
Pas
mais ce qui est amusant chez Kourenci, c'est que c'est quelqu'un qui se réclame perpétuellement d'un retour aux sources, d'un retour à la partition, mais qui est vraiment de parti pris dans toutes ses interprétations. On a pu l'entendre à Paris dans deux Verdi. C'était bon, des interprétations qui ruaient un peu dans la tradition, évidemment, mais qui étaient vraiment de parti pris. Et c'est le cas de cette Didon. C'est-à-dire que c'est une interprétation très personnelle. Il y met toute sa folie personnelle. Cet homme a une folie. C'est incontestable quand on le rencontre.
Oui, alors si on va un petit peu plus loin, peut-être sans vouloir ennuyer Camille, mais peut-être que du coup le sentiment de quelque chose d'extrêmement recherché, de très ouvré en fait, hein, si on écoute attentivement, ça va plus vers l'image, non pas d'un Didon aîné tragique, mais si on va un tout petit peu au-delà, de quelque chose qui confine un peu à une espèce de caricature de tragique.
C'est une espèce de fantasmagorie, je trouve. Un fantasme poussé jusqu'au bout, avec de la présence fantomatique de
et Kermesse roulant dans tout ça un peu des yeux et prenant des mines égarées. Et du coup, ça devient comique au 33e degré.
Je ne suis pas du tout...
C'est-à-dire que suivant les écoutes...
D'ailleurs, rouler des yeux, c'est une expression que tu aimes bien utiliser.
Suivant les écoutes, on peut avoir un ressenti différent face à cet enregistrement. Bah, soit se laisser prendre, soit ne pas être dupe du tout.
Non, mais je trouve que c'est très prenant. C'est très prenant, mais on a du mal à savoir qu'en penser.
Justement,
moi, je n'ai pas ce ressenti caricature. Mais je trouve que la discussion là ouvre une porte très, très intéressante. Pourquoi on fait des enregistrements et s'il y a quelque chose de personnel à dire dans une œuvre, à ce moment-là, on s'engage pour débattre, pour discuter, pour analyser les origines d'une œuvre. Je trouve c'est très riche.
Je suis entièrement d'accord. En tout cas, je pense que la réception critique très négative était injustifiée, qu'il y a beaucoup de portes, comme tu dis, qui s'ouvrent dans ce disque et que ça mérite qu'on s'y penche.
Alors justement, ne quittons pas Simone Kermesse parce qu'elle sort un disque chez Deutsche Harmonia Mundi qui s'appelle Lava. Alors Mehdi nous expliquera tout à l'heure ce que veut dire Lava, car Simone Kermesse est sa belle-sœur. Donc nous allons peut-être écouter un petit extrait dans un instant de ce disque Lava de Simone Kermesse. Il s'agit de Come nave in mezzo all'onde. « Voilà, il s'agissait de Comena vein mezzo a Londe et de Simone Kermès, dont on a abondamment parlé dans le cadre de la Daido de Théodore Currensis. Alors, cette chanteuse est vraiment particulière, Mehdi.
Alors là, on la retrouve dans son image habituelle de vraie baroqueuse allemande. C'est une chanteuse qu'on connaît finalement assez peu en France parce qu'elle n'y chante pas, parce qu'on a stigmatisé chez elle un certain mauvais goût. Et c'est vrai que dans ce disque...
La pochette en est un manifeste.
C'est vrai que dans ce disque, certains effets vocaux tiennent davantage de l'enseignement d'Armand Altaï que de la grande école de Porpora. C'est vrai. Pourtant, ce disque est très excitant à bien des égards. D'abord pour le répertoire qui ne recoupe pas, mais qui est le pendant finalement de celui illustré par Cecilia Bartoli dans son nouveau disque Sacrificium, puisqu'il s'agit justement d'air de l'école napolitaine de Porpora, donc Asse, Pergolèse, Léo, etc. Des airs d'une grande virtuosité, mais aussi des grands airs pathétiques qui durent une dizaine de minutes. Donc, Simone Kermès y met tout son art de l'inflexion, des trilles complètement échevelées, des graves de gorgone en rut, enfin...
Est-ce que chez Simone Kermès, il n'y a pas un petit côté chaînon manquant entre Bartoli et Nella Anfuso? Le point de rencontre entre deux écoles différentes.
Non, je dirais entre Cecilia Bartoli et Erna Sack. C'est plutôt la chanteuse qui me vient à l'esprit quand je pense à Simone Kermès.
Il y a ces petits gloussements, voilà, anfousiens.
Elle a aussi, oui, c'est vrai, des petits gloussements, mais bon, voilà. Alors... Après, au niveau purement technique, elle utilise un peu trop souvent la voix de tête pure. Le registre grave n'est pas très nourri, c'est vrai, mais elle y va à fond. Et c'est ça qui finalement est très excitant dans ce disque. C'est qu'il y a une défonce totale de l'interprète. Elle est accompagnée par les Musique Nove, qui est l'ensemble de Claudio Ocelli. Et Claudio Ocelli, qui était le musicologue attitré de Cecilia Bartoli.
Qui signe d'ailleurs un livret très intéressant.
Voilà, qui signe un livret très intéressant. Alors, on ne sait pas si c'est une espèce de vengeance suite à une rupture avec Cecilia Bartoli que ce disque, parce qu'il fait quand même directement concurrence, hein, d'une certaine manière, même si...
Ouais, peut-être qu'il fait simplement ce qu'il sait faire aussi.
Oui, mais enfin, il s'est illustré aussi dans la confection d'autres types de programmes que celui-ci. Je ne sais plus ce que je disais.
Alors, explique-nous peut-être Lava pour les francophones. Lava, c'est quoi?
Mais Lava, c'est la lave, non?
C'est la lave. Voilà, et donc,
quel est
le lien
c'est
entre
la lave quand on,
la
quand
chevelure
on,
de
quand on, voilà, on regarde la pochette du disque, on voit la chevelure rouge, feu, de Simone Kermès qui est, elle... tel un volcan en fusion avec sa bouche surmaquillée, ses yeux trop bleus, ses sourcils trop épilés, etc. Voilà.
Trop. Non, il faut souligner le parfait bon goût de cette pochette. Donc en fait, Lava, c'est simplement une illustration de la photo de couverture.
Et puis c'est aussi le Vésuve. C'est la musique napolitaine. C'est la musique qui a inspiré peut-être la peur des éruptions du Vésuve à tous ces compositeurs de l'école napolitaine. Alors il y a des airs à la fois écrits pour Castra et pour...
Alors Sylvain, as-tu peur du Vésuve?
Non, j'ai un peu peur de Simone Kermès.
Mais il y a de quoi.
Elle est assez effrayante, il vaut mieux l'avoir en disque qu'à la maison.
Et tu as eu Simone Kermès à la maison?
Non, mais quand on voit son physique et ses mimiques quand elle chante, à côté, Bartoli est aussi expressif que Serge Gainsbourg. et Simone Kermès... alors, je vais employer une expression que je n'emploie jamais, mais elle roule des yeux. elle fait très peur parce qu'elle a un visage très large, elle a des yeux très globuleux et vraiment d'un bleu absolument glaciaire.
Ouais, est-il impératif de décrire dans le menu le physique de Simone?
Oui, elle a un physique très très frappant et remarquable.
Parce qu'elle en joue beaucoup aussi.
Elle en joue considérablement.
En concert.
Et aussi sur son site, quand on regarde bien
son site,
on,
on a des photos d'elle, mais c'est extraordinaire. Elle est, mais c'est mais une ça, grande personnalité.
Elle n'est pas la seule. Karina Gauvin a des photos pas piquées des hannetons. Sur un de ses albums, elle ressemble même à Judy Garland. C'est vrai. Hein.
Et tout le chien aussi.
Alors, ce qui est très bien avec, ce qui est très bien avec cette, ce disque, outre le fait que le programme est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, on constate que très peu des opéras qui sont représentés, des opéras rares et souvent méconnus, ont été créés à Naples. Et l'école de Naples dont il est question, ce sont effectivement des compositeurs napolitains, mais on voit que la vitalité de l'école napolitaine diffusait largement hors de Naples, et en particulier ici à Venise et à Rome.
Mais elle a diffusé jusqu'à Saint-Pétersbourg, dans l'Europe.
Oui, absolument. Et donc en fait, pourquoi cette école napolitaine retient-elle l'attention comme étant une école? Et qu'est-ce qui fait qu'il y a eu, quelle est l'unité en réalité entre des compositeurs comme Léo, Vinci, Pergolèse, etc. Moi, je trouve que c'est un tout petit peu marketing de ce point de vue-là.
Mais il y a d'abord, une grande école de chant.
Non, mais bien sûr. Il y a l'institution, il y a l'époque, il y a le lieu. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin qu'une école locale. C'est-à-dire que c'était vraiment un foyer, en réalité. Et ce que j'aime beaucoup dans ce disque, c'est justement ces croisements et ces entrecroisements de personnalités extrêmement variées de musiciens. Ça, c'est très bien fait aussi sur le site internet.
Sylvain, est-ce que c'est un disque qui survit à plusieurs écoutes?
Et je trouve que c'est un disque qui émerge au fur et à mesure des écoutes. C'est-à-dire qu'on l'écoute une fois et on a l'impression effectivement d'un disque extrêmement virtuose, intéressant historiquement. Et je trouve que plus on l'écoute, plus on voit une espèce d'Atlantide historique remonter à la surface, et on apprend un nombre infini de choses avec ce disque. Et je trouve que la façon dont Simone Kermès chante est quelque part plus... Alors on va toujours comparer à Bartoli, mais quelque part, elle va plus loin que Bartoli dans l'histrionisme ou dans une certaine forme d'expressivité, quoique Bartoli ne soit pas complètement en reste. Mais surtout, je trouve qu'elle a, avec cette musique, une adéquation de timbre plus grande. Elle a dans le timbre une clarté, ce que tu appelais tout à l'heure sa transparence, qui est un terme très très juste. Et elle a du coup une capacité infinie d'inflexion, de caractérisation, d'éclairage, je trouve plus grande que celle de Bartoli.
Peut-être un petit mot, si tu me permets, et avant que Laurent s'exprime. On dira ce qu'on voudra de Bartoli, d'ailleurs on en parlera le mois prochain. On l'aime beaucoup, on dira tout ce qu'on voudra le mois prochain, car on parlera de ce disque justement. Mais ce qui frappe chez Simone Kermès, c'est justement cet enthousiasme, elle essaye des choses folles, mais elle n'y arrive pas toujours, et ça s'entend au disque. C'est pas un disque propre.
Mais c'est parfait, surprenant. Exactement.
Et c'est surprenant parce que, à l'heure justement où dans les studios on enregistre parfois des œuvres mesure par mesure, Simone Kermès arrive et nous offre un disque brouillon. Alors attention, pas brouillon dans sa racine, brouillon dans ses apparences. Dans sa racine de cheveux, oui.
Ça m'amuse qu'on parle de racine parce que...
Mehdi éclate de rire. C'est un peu surprenant, ça. Non qu'aujourd'hui, on sort un discours.
Non, tu sais, ça me fait penser à ce que... c'est très connu, cette anecdote, Régine Crespin enregistrant Les Nuits d'été avec Anse Hermé, c'est ça ? Bien sûr. Et Anse Hermé lui faisant refaire 10 fois la fin du Spectre de la Rose parce qu'il entendait un souffle sur la voix. Jusqu'au moment où Crespin comprend pourquoi on lui fait refaire les prises encore et encore. Et elle dit, mais maître, ce souffle, il est voulu. Et je suis presque certain que les scories du chant de Kermès sont voulues.
Ah oui. Ah oui, je pense bien.
Tu penses aussi
Moi non. Oui.
Moi je pense pas, franchement. Je pense qu'elle essaye des trucs fous qui sont donnés à personne, sauf peut-être à Bartoli, et qu'elle les réussit quasiment, mais pas tout à fait.
C'est systématique chez elle, c'est dans tous ses disques.
Bah oui, parce qu'elle a opté pour un répertoire qui est hallucinant et qu'elle n'en a peut-être pas la suprême maîtrise comme seul Bartoli. Ah, là.
Non, mais je pense que c'est encore une autre dimension.
Ce qui n'enlève rien, je tiens à le dire, ce qui n'enlève rien à l'intérêt de ce disque.
Mais je pense aussi que c'est, par exemple, ce que je trouve très intéressant avec ces disques qui sortent maintenant, on a vécu une époque d'authenticité. Moi, j'ai chanté avec les experts baroques. C'était John L. Gardner, William Christie,
René Jacobs.
Non, j'ai jamais vécu ça. Mais je veux dire, avec chacun, il venait avec les mêmes partitions. Harnoncourt, par exemple, c'était extraordinaire de travailler avec ces gens. Mais ils venaient tous avec les mêmes références et une autre interprétation. Et c'était toujours notre Rockwood. Tous ces gens, ils ont compris les références d'une certaine manière. Ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on commence à sortir un répertoire d'un célèbre castrato, un autre soprano, quelque chose. Tu essaies de m'interrompre simplement pour ta belle sœur. Mais on a des répertoires, des disques basés sur les chanteurs maintenant. Et ces chanteurs étaient célèbres à l'époque parce qu'ils avaient une personnalité forte, qu'ils étaient souhaitables dans le théâtre. Ils étaient le centre commercial, si on veut, d'un projet, de Handel, par exemple. Dès qu'il montait un opéra, il avait un chanteur très célèbre. Et c'est le même cas avec, je pense, tout le compositeur de l'époque. Et je pense, avec ces disques, on commence à comprendre la personnalité potentielle de chaque interprète de cette époque. Et c'est formidable qu'aujourd'hui, on a cette espèce de folie avec Madame Kermesse. Je trouve que c'est très riche. Et je, comme on a avec Cecilia Bartoli, encore quelqu'un d'extraordinaire. Et je trouve qu'on entre dans une richesse d'enregistrement qu'on a rarement eue.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que les scories dont on parle et qu'on peut considérer soit comme des limites vocales, on peut les considérer comme des limites vocales, on peut aussi les considérer comme une signature vocale. Et moi, je crois qu'en écoutant les disques successifs de Kermesse, elle a fait des très belles choses avec Andrea Marcon. Elle avait fait je crois avoir entendu la plupart de ses récitals. Et j'y reconnais toujours sa signature vocale dans une prise de risque extrême dont elle sait qu'elle met sa voix dans le rouge, si on peut dire. Surtout quand on voit sa couleur. Mais je crois qu'elle sait aussi pertinemment en tant qu'artiste, mais ça, Lawrence le dirait mieux que moi, que c'est aussi dans ces limites-là qu'on la reconnaît.
Alors, je ponctue ici le débat sur l'ava de Simone Kermesse, parce qu'on a encore d'autres sujets à traiter. J'aimerais peut-être dire que nous suivrons évidemment de très près la carrière de cet artiste que tous ici nous aimons beaucoup. Alors, aujourd'hui, j'inaugure une nouvelle rubrique qui concerne directement Lawrence Dale et qui n'a pas été prévenue. Il s'agit d'une rubrique anecdote. Alors, chaque mois, nous allons vous livrer une anecdote croustillante sur l'histoire de la musique. Et aujourd'hui, c'est Lawrence qui va nous raconter une anecdote qui lui est arrivée à Salzbourg, je crois, avec un imitateur de Fischer Disco.
Non, mais enfin, c'était à Stuttgart, c'est encore pire. Oui, parce que nous étions à table dans la cantine, je chantais à Stuttgart, il y avait un chef d'orchestre qui était remarquable pour ses imitations de chanteurs, et de chef d'orchestre d'ailleurs, il faisait mais c'était incroyable. Et on était en train d'exploser de rire pendant le déjeuner.
Tu peux dire peut-être que c'était Eugène Jochum.
Pardon,
c'était Eugène Jochum, le chef de...
Non, pas du tout, c'était un Français.
Michel Plasson.
Non, on a beaucoup ri sur d'autres choses avec Michel, mais ce n'est pas ça. Alors, à déjeuner, on a eu le droit de plusieurs imitations de chefs d'orchestre, et puis il commençait avec les chanteurs. Et puis, surtout avec M. Fischer-Disco, que j'admire énormément. Et puis il faisait ces trucs comme ça, en faisant les mélodies, les leads de Schubert. Et puis pendant l'après-midi dans l'opéra de Stuttgart, il fallait répéter quelque chose. Et puis je cherche désespérément un studio pour travailler avec le pianiste. Et j'entends... J'ai dit, oh, mais quand même, il est gonflé pour prendre cette pièce. Et j'ouvre la porte grand. J'entends dire, oh, ça suffit maintenant. Et c'était Fischer Disco en train de répéter un récital. J'étais navré, c'était génial.
Est-ce qu'il t'a fusillé du regard?
Pardon,
est-ce qu'il t'a fusillé du regard?
Non, je pense qu'il était assez choqué que j'entre comme ça, mais non, mais c'est un monsieur très élégant,
tout à
qui
fait.
Part dans les Anglais apparemment.
Ah. Tiens, Sylvain, tu as interviewé Fischer Disco?
Absolument pas.
C'est un des grands regrets de ta vie, ça.
Tout à fait.
Il faudrait le combler un jour pour Forum Opéra. Nous précipiterons Sylvain Faure avec une bande Nagra dans la villégiature de Baden-Baden. Il ira interviewer.
Je crois qu'il habite dans les forêts berlinoises.
Peu importe, je pense. Ouais. Baden-Baden, c'est dans les forêts berlinoises.
Oui, mais si on ne connaît pas l'Allemagne, oui.
À 1500 km près.
Alors, En rapide tour de table, car parlons de ce qui fait débat aujourd'hui. Et ce qui fait débat aujourd'hui, c'est la prise de pouvoir de l'Opéra de Paris par Nicolas Joël, l'exil de Monsieur Mortier. Alors, il y a eu 3 productions aussi, pas plus, mais en 4, 5. Vous y avez peut-être assisté. Mais dis globalement, qu'as-tu pensé des Mireilles, des Villes mortes, etc.
Je n'ai pas encore vu La Ville morte. Bon, il est trop tôt pour juger comme ça l'action de Nicolas Joël sur...
Une presse très positive, en tout cas. Hein.
Pas sur Mireille. Enfin, la presse magazine a été beaucoup plus positive que la presse quotidienne.
Benoît Dutertre a lancé des fleurs à Mireille.
Oui. Oui. Non, disons simplement que Nicolas Joël a été présenté comme le grand connaisseur de voix du siècle, du pays, du monde... Et que, voilà, quand on entend les quelques faiblesses de la distribution de Mireille, ou surtout quand on entend la personne qui a été choisie pour interpréter le rôle-titre de Wozzeck, on a quelques doutes. Voilà.
Je crois que le but de Nicolas Joël ici était de promouvoir
un jeune chanteur français qui a dépassé la cinquantaine, oui.
Ah.
Et qui chante à l'Opéra de Paris depuis 20 ans.
Il a dépassé la cinquantaine, le Texier.
Vincent Le Texier a fait ses débuts.
C'est assez largement.
Vincent Le Texier a fait ses débuts à l'Opéra de Paris il y a plus de 20 ans.
Quand on est baryton, je rappelle aujourd'hui que le grand Renato Bruzzone, une brève et lisible sur Forum Opéra, va fêter ses 50 ans de carrière. Il reste de beaux jours devant la carrière de Vincent Le Texier. Donc on peut lui souhaiter un bon début de carrière. Quand on est de bonne volonté.
Allons comme pas voir Monsieur Joël.
Le mal partout. Sylvain, rapidement.
Non, moi je trouve qu'effectivement la performance de Vincent Le Texier dans Wozzeck est navrante. Et je suis d'accord pour qu'on fasse des castings sur des critères nationaux. On va mettre un petit français et puis on va bien voir parce qu'il va bien chanter en allemand. Et il parle en allemand, il chante bien en allemand, ça, il n'y a pas de doute. C'est un acteur absolument désespérant et c'est un chanteur qui a une voix qui est totalement inadéquate au rôle de Wozzeck.
C'est comique, moi j'avais entendu dans Salomé où il faisait Saint-Jean-Baptiste, c'était un Salomé en français. En tout cas, au niveau du jeu d'acteur, bon, c'est vrai qu'il y a moins statique que Saint-Jean-Baptiste, hein, mais ce n'était pas un mauvais acteur.
Alors, le problème qu'il s'apprête d'ailleurs à reprendre sur la scène de l'Opéra Bastille.
Tu soulignes très bien ce point, c'est-à-dire que le Wozzeck de Marthaler est un Wozzeck agité. Donc il part, il court dans tous les sens, il essuie les tables, il s'agite, il a des espèces de crises d'épilepsie. Le problème de Le Texier, c'est que c'est un type qui est assez grand, qui a le dos particulièrement raide et qui est incapable de suggérer la moindre chose que ce soit.
Question intéressante, peut-être toi qui es chanteur. Comment est-ce qu'un chanteur assume justement de devoir s'agiter sur scène, devoir courir dans tous les sens? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à aborder quand on n'a pas ça naturellement en soi, comme une Nathalie Dessay qui a fait ça toute sa vie?
Ou comme un Kinley Side.
Oui, ou comme un Kinley Side.
Kinley Side, c'est un artiste incroyable. Mais par exemple, je parle...
C'est très méchant ce que tu viens de dire. Je n'ai pas comparé Kinley Side à Le Texier, mais tu viens de le faire d'une manière que je trouve désolée.
Il a simplement rappelé que Kinley Side en tant que tel était un artiste exceptionnel, sans le comparer à Vincent Le Texier, lui aussi est un artiste d'exception.
Mais je pense que la seule comparaison, c'est parce que Simon Kinley Side a créé cette production, je crois.
Oui, tout à fait.
Mais je n'ai pas vu.
Qu'il a bénéficié de 6 semaines de répétition, alors que Vincent Le Texier en a eu à peine 3. Bon, voilà. Admettons.
Mais je n'ai pas vu le spectacle, je connais bien Vincent, mais je n'ai pas vu, sans parler des mais je trouve que c'est peut-être une mise en scène qui a été conçue pour la personnalité de Simon Kinney, qui est un acteur très actif.
On est bien d'accord. De toute façon, Gérard Mortier a voulu cette création. Nicolas Joël endosse cette création, simplement, il s'est trompé sur la personnalité du chanteur principal.
Mais ce n'est pas une production qui a été créée... À Toulouse au début. Il n'avait pas une...
Katia Kabanova, qui a eu sa première française à Toulouse, qui a été créée à Salzbourg, à l'initiative de Mortier.
Oui, mais en parlant de coproduction comme ça, on revient sur La Ville morte, je n'ai pas vu
Tu pourrais peut-être répondre à ma question. Qu'est-ce que c'est pour un chanteur de devoir s'agiter sur scène, tout en devant garder une ligne, une intonation, etc.
C'est assez difficile, c'est surtout physiquement épuisant. Par exemple, le rôle le plus épuisant pour moi, c'était bizarrement, c'était Eisenstein dans Le Chauve-souris, qui n'a pas un air, qui bouge toute la soirée, qui danse, qui rit, qui hurle toute la soirée. C'est très agité. Et franchement, le lendemain, je ne pouvais pas marcher. J'étais épuisé. Je ne pense pas que le public se rend compte à quel point physiquement c'est un artiste.
Donc un rôle aussi écrasant que votre sec, une mise en scène une mise en scène très frétillante, un enjeu aussi pour cet artiste de chanter ça en quasi ouverture de saison sur les planches de Bastille, ça l'a sans doute déstabilisé aussi un petit peu. Donc
ça peut être.
Moi j'aimerais poser une autre question à Laurence Dale, qui est comment rentre-t-on comme ça dans une production qui a été créée sur mesure pour quelqu'un d'autre.
Ça, c'est très difficile. Voilà. J'étais en train de parler avec Eve Martin l'autre jour, pour laisser tomber un nom.
Comment va-t-elle?
Elle va très bien, elle est très active en Hongrie, je la vois la semaine prochaine. Non, le mois prochain pour juger le concours Mezzo TVA.
Est-ce que tu irais jusqu'à nous obtenir une interview?
Si tu en veux. Je suis
sûr que Mehdi rêverait de faire un croisé avec Eve Martin.
Mais de toute façon, elle était très,
oui,
très athlète, très souple sur scène et courait partout parce qu'elle était physiquement très active.
Oui, cette Electra viennoise avec Abado où elle se pendait.
Voilà. Non, mais le problème, c'est que quand on reprend une mise en scène conçue pour elle, les sopranes viennent dire « Mais Eva, chérie, pourquoi tu as... » Moi, j'ai fait une mise en scène de... Je chantais dans Ottavia dans une mise en scène de comment s'appelle Robert
Carmen.
Mais c'était un truc fou, et j'étais dans la première finale un chien dalmatien, on dit ça. Alors et je reste comme ça, c'était après une photo de Madonna avec son boyfriend qui était avec un collier, et voilà, c'est
alors très mignon en chien dalmatien.
J'étais très bien à genoux sur scène comme ça en train de faire wouf 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 wouf. Alors quelques mois plus tard, je suis dans un autre opéra, je rencontre un ténor qui dit « Ah, mais je viens de rentrer de Bonn, ah, mais tu imagines, j'ai chanté dans l'Ottavio, et j'étais un chien !» J'ai dit « Un dalmatien !» Il dit « Oui, mais c'est fou !»« Mais tu te rends compte, c'est fou ce qu'il a... Mais quel con a fait ça !» J'ai dit « Mais voilà !» Mais évidemment, c'est très difficile d'entrer dans une mise en scène.
Oui, c'est Nelly Mirichoni m'expliquait que dans son avant-dernière Tosca, elle devait masturber Scarpia en chantant Vici d'Arte.
Mais on fait ça dans toutes les mises en scène, c'est normal.
C'est charmant. Donc on peut peut-être reprendre le fil de l'émission et en arriver au clou du spectacle. Et le clou du spectacle aujourd'hui s'appelle René Fleming.
Oh oui.
René Fleming chante des airs véristes.
C'est quand même un gros clou.
C'est un gros. Alors, avouons-le, René Fleming en Mimi, c'est un peu comme si Catherine Deneuve endossait les nippes et la crasse de Mère Courage. Un brushing, même constellé de salpêtre et de poussière de charbon, cela reste un brushing. Et pourtant, il y avait comme une promesse dans cette rencontre, d'un côté Fleming et ses langueurs plébéennes, de l'autre les compositeurs véristes qui, dit-on, firent de la musique pour femmes de chambre. Et pourtant, les accents nouveaux riches de cette américaine fardée, qui par ailleurs nous adorons, semblent peut-être très à l'étroit dans le tablier de la femme de chambre. On écoute « Si mi chiamano Mimi » de la Bohème.
Thank you.
C'était Si Mickey Amano Mimi de La Bohème, chantée par René Fleming. Il s'agit de l'album Verismo, paru chez Decca. Alors, Sylvain, toi qui écris un livre sur Puccini.
Oui.
Qui a un incipit remarquable, d'ailleurs.
Tout à fait. Comment dire ? Le problème de ce disque, c'est y a plusieurs problèmes autour de ce disque. On va quand même parler de son grand, grand mérite.
Les deux problèmes essentiels étant le répertoire et la chanteuse.
Pour commencer.
Non. Au-delà de ça, on peut débattre de tout.
Non. Il faut quand même dire que c'est pas tous les jours qu'on entend un air de Siberia de Giordano.
Voilà.
Heureusement.
Et on s'en félicite.
J'ai un disque de Siberia à la maison, oui, et je l'ai jamais écouté. Alors maintenant, je vais l'écouter grâce à Madame Fleming.
Absolument. Voilà. Et puis, on a quand même du Zandonai.
Et la bohème de Léon Cavaille.
Ça, c'est déjà.
Sylvain Faure prend un air lubrique pour dire Zandonai.
Mais oui, parce que Zandonai est un des grands oubliés de la tradition dite vériste.
Voilà. De la nouvelle école italienne.
Maintenant, ce vérisme-là, en fait, je crois qu'on a, on en a une vision assez, comment dirais-je, assez tronquée. Je ne pense pas du tout que ce soit une école comparable au réalisme, au cinéma réaliste italien. Je ne pense pas du tout que ce soit une école de la crasse, du caniveau et de la suie qui salit les mains. Je pense que c'est une école de chant extraordinairement exigeante et qui ne suppose pas nécessairement une expressivité criarde. Je ne crois pas du tout que ce soit un naturalisme en musique. Et je pense qu'en faisant ce programme, René Fleming nous induit en erreur en prenant le titre Verismo. Parce que c'est un titre qui porte à beaucoup de malentendus. Les morceaux qu'elle choisit, certes, parfois, elle paraît trop opulente, elle est un peu à côté de la caractérisation, etc. Mais il y a une... Tout le monde tousse pendant que je parle. Oui, car ce que je suis en train de dire frappe d'allergie mes petits
camarades. Nous étions, Mehdi et moi, hier soir au Playel, et nous étions assis à côté d'une vieille femme qui toussait énormément, de manière convulsive, et tous les deux atteints de grippe.
Tu m'as dit que Frédéric Mitterrand était là, effectivement. Et donc, je crois qu'en fait, ce qu'elle met en valeur, c'est les exigences vocales de ce répertoire. Et je me demande si des chanteuses qu'on considérerait comme ça, de prime abord, comme étant beaucoup plus désignées que René Fleming pour chanter ce répertoire, vocalement seraient capables de le faire.
Non, mais ce qui est frappant ici, c'est qu'elle chante très bien. C'est indéniable.
Mais elle chante extraordinairement bien des choses qui sont extraordinairement difficiles.
Elle chante
des seules à pouvoir chanter.
Elle chante très bien, c'est très dur, c'est formidable, mais en fin de compte, c'est comme quand tu finis 500 grammes de chocolat, tu as envie de t'en courir.
C'est pareil avec Fleming.
Non, c'est faux. Son album précédent, dont on avait parlé ici, qui était Les Wirletztlieder de Strauss et d'autres Lieds, nous avait mis à genoux d'admiration.
Ça, c'est autre chose, Strauss. Mais dans le répertoire italien, comme ça, que ce soit dans Verdi ou dans ses compositeurs, avec beaucoup de guillemets véristes, je crois qu'elle fait la démonstration d'une chose et dont on doit lui savoir gré, c'est que c'est un répertoire qui est terriblement difficile à tenir vocalement. C'est un répertoire pour de grandes voix.
Toi, justement, qui a beaucoup d'affection pour ce répertoire, ce qui m'a frappé en l'écoutant, et vraiment, ça a été une torture pour moi, qui ne suis pas réfractaire à beaucoup de répertoires, mais tu as un sentiment d'uniformité à travers toutes ces œuvres. Tu as l'impression d'entrer dans une cantate qui dure une heure dans des tonalités différentes, avec des thèmes sans doute un peu différents, mais il n'y a aucune rupture dans ce disque.
Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est l'effet d'un... Ce répertoire est assez méconnu et je pense qu'on peut avoir, en l'écoutant et en le découvrant ou à travers ce genre de récital...
Tu m'excuseras, mais le répertoire de Simone Kermès n'est pas beaucoup plus connu.
Oui,
il est peut-être un peu plus hype. Non, mais
c'est tout à fait comparable. C'est tout à fait comparable. Je pense que le disque de Simone Kermès aujourd'hui n'est audible par nous que parce que d'autres sont passés avant et nous ont décanté l'oreille par rapport à ces airs qu'il y a 15 ou 20 ans, on pouvait considérer comme totalement uniformes et comme une série de... Rappelle-toi quand on dit Vivaldi a écrit 300 fois le même concerto. Qui dirait ça aujourd'hui?
Ouais, c'est pas loin d'être vrai aussi.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux dire, aujourd'hui, je pense que plus personne ne peut dire que Vivaldi a écrit 300 fois le même concerto.
Eh bien, je le dis.
100 fois le même opéra. De la même manière, on ne peut pas dire que ces compositeurs, même s'il y a une unité stylistique évidente entre eux, ont écrit tous la même musique.
Est-ce qu'à visage masqué, tu serais capable de faire la différence stylistiquement parlant entre Leon Cavallo et Zandonai?
Probablement, oui.
Mais par exemple,
Mascagni est un compositeur absolument fascinant.
Mais en plus, là, on reconnaît tout de suite Mascagni.
Mascagni est vraiment formidable.
C'est vrai, dans le récital. Mais le problème qu'on en a
parlé... Zandonai, c'est pas génial. Bon.
On a parlé dans les dernières émissions de Vivaldi, quand on met tous les grands airs ensemble, ce sont les cerises sur le gâteau d'un opéra.
Oui.
Et le problème avec ce disque-là, on a beaucoup de cerises.
Tout à fait, d'accord.
Et peut-être c'est un peu indigeste.
Aussi, ce qui est intéressant dans le disque de Simone Kermes et aussi dans celui de Bartoli dont on va parler, dans un mois, c'est que justement on a une alternance d'air rapide, d'air lent, qui crée une sorte de projet abordable.
Pourquoi l'imputer au compositeur ?
Non, je ne l'impute pas au compositeur, justement c'est un concept aussi qui pose problème. On a vraiment l'impression d'être face à un disque complètement
Le concept pose problème, monotone, je suis d'accord.
Complètement monotone. Et justement, je me faisais cette réflexion il y a quelques années en écoutant un disque de Juan Diego Flores qui était extrêmement bien chanté. Et je me dis, pourquoi est-ce que chacun des morceaux de ce disque se ponctue du contrut réglementaire? On avait l'air et le contrut. Et chaque fin d'air était ponctué par ce contrut. Et à la fin, tu te disais, mais enfin, on ne peut pas trouver autre chose. Et là, c'est la même chose. Tu as, comme vous dites, les cerises sur le gâteau de chacune des œuvres qui, ici, sont enchaînées à la queue leu et quasiment tricoter les unes aux autres les queues de cerises. Pour finir, tu as quoi? Tu as un disque qui laisse relativement indifférent.
Oui, sauf si tu t'intéresses à ce répertoire et que ponctuellement tu as envie de découvrir
Et quand tu te réveilles dans un sursaut de lucidité, tu te dis, mais bon sang, c'est rudement bien chanté.
Oui, mais pourquoi imputer ça aux compositeurs? Pourquoi dire que ces compositeurs se ressemblent tous? Ils ne se ressemblent pas tous. Il est vrai qu'elle a choisi des morceaux qu'elle traite de la même manière.
Par exemple, Sylvain. Tu vois, là, on parle d'écoles différentes, etc. Mais quand tu écoutais le mois passé le disque de notre ami Kate Royal, par exemple, tu avais plusieurs compositeurs britanniques de la même école, j'avais personnellement moins l'impression d'avoir cette espèce d'imbrication où tout ressemble, où tout est comparable. Ici, vraiment, j'ai écouté ce disque plusieurs fois, hein, je te rassure, et vraiment, ça a été une torture, non pas parce que je n'aime pas ces œuvres en tant que telles. Je trouve que ces œuvres, quand on a la chance de les voir à la scène, et j'avais vu Siberia et j'ai vu plusieurs Puccini, etc., sont des œuvres qui marchent parce qu'elles ont un côté justement qui emporte l'adhésion du public dans ces histoires extrêmement pathétiques, etc. Mais là, vraiment, on est face à une chanteuse qui chante remarquablement bien, on est face à un bon orchestre, on est face à de la musique qui, a priori, est de qualité, et moi, ça m'a ennuyé à un point que je ne peux même pas décrire.
Je comprends très bien, mais prenons par exemple l'exemple qu'on vient d'entendre, l'air de Mimi au premier...
Mais ça, c'est l'erreur de casting.
D'abord, elle n'est pas faite pour chanter ça, ça c'est le premier point. Mais on sait qu'elle n'est pas faite pour chanter ça, parce qu'on en connaît plein d'autres qui chantent ça, différemment et souvent mieux qu'elle. Mais quand il s'agit de chanter l'opéra Conchita de Zandonai, on a des points de référence un tout petit peu moins marqués. Juste pour finir, mais l'air de Mimi dans la Bohème, est-ce que, quand on connaît la Bohème, comme tout le monde la connaît par cœur, etc., est-ce qu'on peut dire que c'est l'air le plus représentatif de cet opéra?
Pas du tout.
Au contraire.
On a fait le troisième acte.
Tu as chanté la Bohème, Laurent?
Non, je n'ai chanté que des extraits.
Mais par exemple, je me suis toujours demandé ce que ça représente.
Tu avais chanté Musetta. Hein.
Non,
je me demandais.
Non, c'est simplement parce que j'ai fait travailler quelqu'un.
Est-ce que justement, c'est pas moche pour une soprano de devoir enchaîner directement après le grand air du ténor cet air de Mimi qui est franchement un peu plat et un peu fade? J'ai toujours été très peiné pour les sopranos qui chantaient Mimi d'avoir Rodolfo qui pousse son contrut dans un air relativement magnifique. Et puis elle arrive avec sa petite comptine un peu
oui,
fadasse.
On ne peut pas avoir. Non, mais c'est joli, je trouve.
C'est charmant. Mais entre l'air de Rodolfo et puis leur duo qui clôt le premier acte, si je ne m'abuse, ou en tout cas la première partie du premier.
C'est le duo de premier acte. Oui, voilà. On a l'air.
Le premier tableau dans la Bohème.
et qui clôt le premier tableau, c'est quand même frustrant. Alors, en plus, René Fleming, dans son identité même, c'est une mousette. Elle a tout de mousette. Pourquoi est-ce qu'elle... D'ailleurs, elle chante mousette chez Leon Cavallo.
Oui. Mais attends, mousette dans Leon Cavallo, c'est le premier rôle.
Oui, d'accord, certes.
Comme on sait, parce qu'on connaît bien l'opéra.
On connaît très bien cette opéra. Ouais.
Certes, mais ça reste le même personnage.
Oui, mais c'est le rôle titre, si tu veux.
J'entends bien, important. Lawrence, mais je te parle de René Fleming, la belle femme américaine qui fait des régimes, qui est belle, mince, comme on le voit sur la pochette.
Elle est
sublime. Il faut voir les photos de ce disque. On dirait l'épouse de Sylvain Faure, quasiment.
Mais elle peut avoir les cheveux un peu plus roux, à mon avis. Mais
tout à fait.
Un peu comme Nina, comme s'appelle Simone.
Donc voilà. J'ai demandé à Sylvain ce qu'il en pensait. Maintenant, nous allons demander à Mehdi.
Quant à la monotonie du programme, je m'inscris en faux. Tout simplement parce qu'il y a une alternance, pour qui connaît mal ce répertoire, entre des tubes et des raretés. Alors simplement, voilà, on écoute les tubes et puis après, on est quand même interpellé par ces airs qu'on ne connaît pas, pour ma part, en tout cas. Je n'ai jamais entendu Iris de Mascagni dans son intégralité, ni L'Odoletta, ni...
Par parenthèse, Iris de Mascagni est une des œuvres les plus absurdes de point de vue de l'histoire. Hein, complètement...
C'est un des livrets que tu préfères dans l'opéra.
C'est absolument... Le trouvert à côté, c'est du Racine. Hein.
Alors, bon, puis je vais encore essayer de défendre le concept du disque, puisqu'il y a quand même quelques ensembles. Il y a cet air assez frappant dans Zaza, hein, qui confronte la voix chantée de l'interprète du rôle-titre, Zaza, et de la fille de son amant, Toto.
Oh. Oui, voilà.
J'ai dit une bêtise ?
Non, au contraire. Non, mais ça, j'ai trouvé agaçant avec une petite...
Bon, il y a des choses assez frappantes, comme ça.
François
après,
n'a pas fait autrement.
Pardon ?
Dans le téléphone pleure.
Après, je conteste Monsieur Arturo Chacón Cruz.
Qui Monsieur Arturo Chacón Cruz ?
C'est le ténor qui, à l'exception de la plage finale où c'est Jonas Kaufmann, donne la réplique à Madame Fleming. Bon, alors tout ce qui est grande ligne est superbe. J'aurais quand même quelques réserves sur l'art de René Fleming dès que le débit s'accélère. Là, on perd quelque chose de la voix. Ça m'avait déjà frappé dans la version de concert du Chevalier à la Rose au Théâtre des Champs-Élysées l'an passé. On perd quelque chose de l'accroche dans un débit rapide.
Bah, dès lors que le débit est rapide, il n'y a plus de lignes. Or, les lignes, c'est bien ce qui caractérise le chant de René Fleming.
Exactement. Voilà. Donc, est-ce qu'elle est la mieux armée pour chanter ce répertoire quand il y a des lignes ? Oui. Quand il n'y a pas de lignes ? Non.
Mais en fait, moi, ce que je me suis dit...
Parce que ce n'est pas une diseuse.
Ce que je me suis dit, c'est un peu comme quand, c'est comme quand tu rajoutes du sucre dans du CCML. Vous avez du CCML en fait ?
Non, ça doit être belge. Ouais. Alors,
c'est comme quand tu rajoutes du sucre dans du chocolat chaud déjà sucré. C'est que tu as déjà un répertoire qui est un peu indigeste par sa construction pâtissière. Et puis, tu as une soprano qui, elle-même, a été qualifiée en son temps de café crème. Ça fait beaucoup de crème. Justement, quand tu dis René Fleming est-elle la mieux armée, tu dis, mais c'est un peu abondance de bien ne nuit pas. Là, petit point d'interrogation sur cette question.
Mais il faut dire que quand même, je ne crois que je n'ai jamais entendu tellement aussi en forme que dans ce disque. Elle est arrivée à un niveau de technique. Et je trouve ça, par exemple, la dernière fois que j'ai entendu en live, c'était au Met avec un opéra de Handel. Et c'était un peu...
C'était Rodelinda, c'est ça ?
Oui, c'était ça. Mais un peu excentrique et vocalement... Je n'avais pas... Comme tu viens de dire, ce n'est pas une diseuse. Et quelque part, elle a perdu la couleur dans son expression, dans la musique baroque, comme ça. Mais là, on retrouve en pleine forme, somptueuse. Et puis... Je suis d'accord. on s'ennuie un peu.
Oui.
On est
l'expression,
un peu...
la diction sont factices. C'est-à-dire qu'elle se réclame un peu de Magda Olivero, mais peut-être que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Finlay, c'est que c'est très travaillé, c'est trop travaillé pour sonner vrai et intégré.
C'est comique parce que pour revenir 2 minutes à Finlay, moi j'avais le sentiment que Finlay, un peu comme Fritz Wunderlich, dans une branche complètement différente, était un chanteur uniquement d'instinct, qu'il attrapait ses partitions et, à mon avis, qu'il les chantait sans même peut-être y réfléchir. Et que ça, justement, donnait un résultat magnifique. Ça, c'était ma petite parenthèse sur Finlay, peut-être. Et c'est pour ça que je m'inscris en faux au niveau de ta comparaison.
Oui, merci. Mais ça, c'était... Tu ne peux jamais t'empêcher d'avoir tes petites revanches en public, finalement.
Bah, revanche de quoi? Revanche de quoi, mon chat?
Parce que Mehdi a dit qu'il s'inscrivait en faux.
Non, mais il a le droit, je lui réponds.
Tu t'inscris en faux,
il me répond.
Est-ce que je peux m'inscrire en faux à mon tour?
Inscris-toi.
Inscrivons-nous en faux, c'est ce qu'on fait chaque mois depuis
peut-être
des années.
Peut-être pour nous inscrire en faux tour à tour.
Mais c'est ce qu'on fait, Sylvain.
Moi, je crois que je suis tout à fait d'accord avec Mehdi, mais c'est un peu le revers de la médaille d'une chanteuse qui montre, et je me répète, mais qui montre que dans ce répertoire, il ne suffit pas d'avoir des poissardes qui braillent. Il faut avoir des vraies chanteuses avec une vraie ligne. Et qu'effectivement, comme diseuse, elle n'est pas terrible, mais qu'il y a beaucoup de choses que n'importe quelle diseuse hors pair serait incapable de faire. Le mélange de la diseuse et de la chanteuse à ligne, etc., se retrouvant effectivement chez une chanteuse comme Olivero.
Alors aujourd'hui, justement, c'est qui les grandes veristes en activité? Quelles sont les concurrentes de René Fleming?
Eh bien, il y a Magda Olivero.
Qui chante encore à 99 ans.
99 ans.
Il y a un extrait saisissant sur YouTube d'elle chantant en 2007.
Oui.
Mais il n'y a pas de grande veriste aujourd'hui.
En 2007, elle chante un passage de...
Ah, attends, pardon. Mais je n'ai pas entendu la Ville morte à la Bastille. J'adorais cette mise en scène qui était partagée. Je l'ai vue à Amsterdam, mais c'était partagé entre Salzbourg. Amsterdam, Londres et tout. Mais apparemment, le soprano là est absolument sublime. Je ne sais pas qui c'est, je ne m'appelle absolument plus le nom.
J'ai entendu des avis assez contradictoires sur Madame Merbet. Alors je mais ne prononcerai pas tant que je ne l'ai pas entendu.
Comment elle s'appelle?
Ricarda Merbet.
Mais j'ai un ami qui est spécialiste dans le virismo. Qui écrit d'ailleurs des choses sur tous les compositeurs en site là. Et il m'a dit qu'il faut absolument y aller simplement pour l'entendre. Alors peut-être ça, c'est une nouvelle de verismo, je ne sais pas.
Angela Georgiou n'est-elle pas une grande veriste?
Non, mais ce n'est pas une voix de profil de verismo, je trouve. Elle fait beaucoup d'enregistrements de verismo.
Quel profil a-t-elle alors?
C'est une très grande puccinienne, quand même.
Oui, je trouve qu'aujourd'hui, dans le Puccini, justement, nous qui aimons beaucoup dire du mal d'Angela Georgiou, ça me semble être...
Georgiou dans Puccini et Mascagni, c'est quand même aujourd'hui, à mon avis...
Mais c'est une voix magnifique, bien entendu. Et
peut-être un poil plus sobre que René Fleming.
Oui, plus incarné peut-être.
Plus naturellement latine. Que ne l'est celle de René Fleming.
Alors qu'est-ce qui gêne dans ce disque? Parce qu'en fin de compte, Laurence a beaucoup aimé, mais il s'est un peu ennuyé. Sylvain a émis de micro-réserves.
Non, mais attends, quand je dis ennuyé, je veux dire que, simplement comme tu as dit, qu'on est gavé par le même...
Qu'est-ce qui fait défaut dans ce disque?
C'est le concept qui ne va pas. Ces morceaux choisis qui s'enfilent comme ça, qui n'ont aucun sens dans une dramaturgie.
Et pourtant, ce que tu reprochais à juste titre à Kate Royal il y a un mois, c'était justement d'avoir un concept où il n'y avait pas de place pour la rareté. Or ici, il y a une réelle place pour la rareté,
oui.
Et c'est en fait la dynamique des morceaux.
Mais oui, mais elle tape dans un répertoire où la dramaturgie est très particulière, où c'est quand même une dramaturgie de mélodrame, où les airs ne portent pas nécessairement, comme dans d'autres opéras ils peuvent le faire, ne portent pas nécessairement la substance de l'œuvre. Et encore une fois, chez Puccini, il y a de très grands airs, de très beaux airs, mais la substance théâtrale, dramatique et artistique et esthétique des opéras de Puccini n'est pas forcément dans les airs de Puccini. C'est pas parce que tu as entendu l'air du premier acte de Tosca du ténor que tu as une idée de voilà. Ce qu'est Tosca.
C'est très juste ce que tu dis. Et Mehdi nous avait fait un cours magistral il y a quelques mois sur le terme furore, justement, hein, qui traduisait un état d'esprit dans un air qui était très
voilà.
Manifeste.
On n'est pas du tout
ici,
dans ce cas de
figure.
On n'est
pas du tout là-dedans. On a l'impression qu'en fait, elle est tout le temps dans le même état d'esprit.
Mais parce que ce sont des stases. C'est-à-dire que les airs dans ces opéras diveristes, ce sont des moments de pause où il y a une évocation, quelque chose, mais qui n'ont pas forcément une teneur dramaturgique ou dramatique plus forte que les moments plus récités, avec les récitatifs accompagnés, etc., etc. Et puis, il y a un point extrêmement fort de ces œuvres, ce sont les ensembles, les duos. Enfin, il y a tout ça. Je veux dire, c'est absolument ridicule de dire que Vicidarte, par exemple, est représentatif. Une chanteuse peut être une Tosca absolument prodigieuse et foirer son Vicidarte, ça n'aura pas d'importance.
Ou le contraire.
Ça n'aura pas d'importance. On n'est pas dans cette esthétique-là.
Mais pour trouver les points chauds, si on veut, le point fort de ce récital, par exemple, le Sur Angelica, c'est magnifique.
Oui.
Son air. Et Manon Lescaut m'a donné envie vraiment d'entendre dans tout le rôle. C'était quoi
l'autre? Ça, c'est pour elle, c'est pour elle.
Oui, Fedor, j'étais moins pris, mais c'était très bien chanté.
Enfin, on ne va pas passer tout le programme du disque en vue, parce qu'il y a quand même quelques plages, et puis on doit...
Non, mais tout ça pour répondre à ta question, je crois que le concept est complètement erroné.
Ouais. Pauvre René.
Erroné.
Donc voilà, on va terminer rapidement par un tour de table, un double tour de table, l'objet culturel qu'on a aimé et qu'on n'a pas aimé. Bien entendu, Mehdi va commencer par ce que tu as aimé.
Eh bien, moi, je voudrais conseiller la lecture de la correspondance de Boniface Croustadou et de Roseraie de Burbure, parue sur Forum Opéra. Une magnifique correspondance rédigée par...
On est un peu gênés parce que...
nos amis Sylvain Faure et Camille
Dorail. On a donc participé justement à ce travail de redécouverte de cette correspondance qui fera date, je crois, dans la musicologie de cette période. Mmh. On travaille aussi sur base des travaux de notre ami Guy Bébéard, qui nous a quittés dans un accident de voiture il y a quelques années. Sylvain, peut-être un mot rapide sur ce travail. C'est surtout toi qui a regroupé les papiers de Guy.
Moi, j'ai fait la collation des feuillets restants de notre ami.
Maculé de sang, d'ailleurs.
Oui, puisque c'était sur la plage arrière de sa voiture et son cadavre, en fait, a été projeté vers l'arrière lorsqu'il a heurté le platane. Il a fallu agir assez vite et je remercie les services des pompiers qui ont réussi à sauver ce manuscrit. Et donc, moi étant évidemment docteur en philologie de l'université de Louvain-la-Neuve, j'ai mis au service.
Université catholique de Louvain-la-Neuve.
Tout à fait, j'ai mis au service de ce manuscrit mon modeste bagage philologique pour déchiffrer notamment les parties en latin et en vieux françois.
On peut peut-être dire que la traduction en stricto sensu des manuscrits latins était réalisée par. Par le professeur.
Tout à fait. Par notre éminent collègue.
Et tu peux dire son nom, merde.
Non, parce que je crois qu'il ne souhaite pas qu'on fasse de la publicité. Il est actuellement dans une dépression profonde et il s'est réfugié à la trappe. Et donc, il est inutile de lui rendre hommage car il ne captera pas l'émission. Et par contre, ce qui a été très utile, c'est les connaissances en musicologie historique de Camille. Hein. Et je crois que les travaux que tu as faits avec le célèbre luthier d'Anvers, comment s'appelle-t-il déjà ? Bjørn Borgensen, nous ont beaucoup servi pour comprendre le sens de cette correspondance.
Voilà, donc en fait, on insiste énormément sur, parce qu'on n'a pas fait grand-chose, nous, hein, sur l'intérêt des travaux de Guy Bébéard de l'université.
Oui, enfin, il était à la fin de sa vie, trop brève. Il était professeur d'art plastique au collège Jacques Brel.
Voilà. Donc voilà, à lire cette correspondance accessible gratuitement, bien entendu, sur forumopéra.com.
Le manuscrit était déposé à la Bibliothèque nationale.
Oui, où il est jalousement gardé.
Pas du tout, il est sous une vitrine.
Lawrence, l'objet que tu as apprécié, l'objet culturel.
Je cherche. Alors continue et je cherche encore.
Moi, j'ai énormément aimé. Il y a quelque chose qui est très connu et que je ne connaissais pas, mais que en même temps pas grand monde connaît finalement, je me rends compte quand j'en parle autour de moi, ce sont les entretiens de Paul Léoto et Robert Mallet.
Oui, tout à fait.
Tu les connais, les as entendus?
Oui, parfaitement, je les ai même traduits du grec ancien.
Absolument. Et donc ce sont des entretiens qui ont été faits 2 ou 3 ans avant la mort de Paul Léoto en 1954. C'est 10 heures d'enregistrement disponibles chez un très bon éditeur dont le nom m'échappe, mais qui fait tous ces enregistrements de...
Iéna Mémoire Vive.
Non, c'est pas Iéna Mémoire Vive, c'est les frères, je sais plus quoi, Mehdi sait ça par cœur.
Karamazov.
Absolument. Bogdanov. Et alors c'est génial parce qu'en fait... Léoto était un personnage à la fin de sa vie qui n'avait plus rien à foutre de rien, pour autant qu'il n'en ait jamais eu à foutre de quoi que ce soit, et qui a des avis absolument tranchés sur tout, et qui s'exprime avec un débit de vieillard à la fois malicieux et totalement aigri.
C'est tantôt à lui qu'on doit l'occasion suivante, qu'un critique littéraire doit lire plusieurs fois les livres.
Par exemple, il serait effectivement bien inspiré de le faire.
Voilà. Lawrence.
Non, mais je suis en train de préparer une mise en scène de Norma actuellement.
Tu nous fais un peu de pub, on en parlera après.
Ah oui, c'est gentil, mais les raisons que je parle de ça, c'est que quelqu'un m'a envoyé un enregistrement de Anita Cerquetti dans le rôle live de Norma. Et comme elle chante Casta Diva, elle m'a rendu fou de joie. Parce que c'est jubilatoire. Mm-hmm. C'est exactement dont on a parlé.
C'est un extrait qu'on trouve sur ce récital à la pochette ignoble. C'est la pochette la plus laide de toute l'histoire du disque.
Incroyable. Hein. C'est extraordinaire.
C'est-à-dire qu'il suffit de mettre une photo de Anita Cerquetti sur une pochette de disque.
De rhinocéros.
Non, mais ce qui est très intéressant dans ce.
Ah oui, tu dirais ça. Ouais.
Oh, mais ce qui est très intéressant dans ce.
Je fais une parenthèse. Anita Cerquetti n'était pas si laide qu'on le dit. Cette photo, la montre dégoulinante de sébum et au teint verdâtre. Alors, on aurait peut-être pu.
Je l'ai connu simplement. J'étais une femme d'une certaine présence.
Elle vit encore d'ailleurs.
Oui, je suis d'accord.
Non, elle n'est pas morte.
Elle est morte il y a 2-3 ans. Absolument.
Elle est morte ?
Oui, elle est morte.
Donc je rassure les proches d'Anita Cerquetti qui vit et est heureuse à l'heure qu'il est.
Sylvain est décédé.
Mais je ne sais pas. Mais de toute façon, ce qui est très intéressant dans ce live, première chose, ça nous donne les experts d'authenticité qu'elle arrive sur scène et elle dit des énormes applaudissements, c'est-à-dire que je suis persuadé depuis longtemps qu'on ne comprend pas les manières dans lesquelles les opéras étaient écrites, parce qu'il y a une musique écrite pour être applaudie dessus. Et là, dans cet enregistrement, on a l'entrée de l'artiste, des applaudissements qui s'arrêtent pour ses premières notes. Et puis, heureusement, mais elle livre un Casta Diva, mais absolument incroyable.
Donc voilà, vérification faite, Anita Cerquetti est bien en vie. Elle est née en 1931 et elle n'est pas morte.
Ah, je suis soulagé. Parce que c'est une femme charmante.
Je crois que tu te trompes lourdement.
Oui, mais enfin, là, en l'occurrence, c'est Wikipédia en 3 langues différentes qui vient de me confirmer.
Oui, voilà. Elle n'a pas été actualisée depuis 2 ans.
Bien.
Enfin bon.
Alors.
La pauvre.
Qu'est-ce qu'il faut ? Voilà. C'est la plus grande joie que j'ai reçue depuis quelques jours.
Elle est morte.
Quand
je vivais à Rome. Elle vivait à Rome. Et elle est morte quand je vivais à Rome.
Je crois que tu confonds avec la célèbre chanteuse de jazz Mama Cass, des Mamas and de Papas, qui s'est étranglée avec un sandwich.
Voilà, ça c'est triste parce que Mercedes Sosa vient de mourir.
Oui, tout à fait. Mais pas en s'étranglant avec un sandwich.
Non, même pas dans un accident de voiture.
Non.
Même avec les partitions et la musicologie tout autour d'elle.
De
non, mais ça, c'est une femme, ça, c'est une chanteuse extraordinaire. Et
j'aimerais avoir mon mot à dire. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le blog de notre ami Christian Chaurier, qui est le directeur sortant du Théâtre National et Populaire de Poissy. Alors, c'est un blog consacré à la musique où Christian Chaurier, Sylvain est d'accord avec moi, livre des opinions extrêmement pertinentes.
Aphorismes.
Oui, vraiment, ce sera un jour publié.
Oh, je pense, dans la Pléiade directement.
Tout de suite.
Oui, directement.
Christian Chaurier, d'ailleurs, qui est un grand ami de Forum Opéra.
Absolument, mais qui le lui rend bien. Et d'ailleurs, alors, ce qui est très triste, c'est que, et je voudrais lancer un appel, Christian Chaurier est atteint par la limite d'âge, et qui est de 75 ans, que je vous en souviens.
65
ans. Ah, pardon, 65 ans. Et doit quitter ses fonctions du théâtre de Poissy. Ah. Et je crois qu'il laissera un grand vide derrière lui, car ça n'est pas tous les jours qu'on pouvait aller au théâtre en se frottant les mains de cette manière, sachant qu'on en sortirait tout ébobie.
Ouais, et c'est vrai que Christian Chaurier, dès 1995, a œuvré pour le rétablissement de la musique baroque.
Absolument. Exactement, au moment où tout le monde faisait ça, il a décidé de le faire.
C'était un combat qu'il était courageux d'endosser.
Absolument.
Voilà. Et nous lui dédions cette émission.
Alors, il faut souligner quand même que Christian Chaurier, on ne lui rend pas assez hommage, mais c'est quand même lui qui a découvert la bagatelle de Thomas Sampson,
oui.
Nicolas Sarnoncourt,
oui.
Marc Minkowski.
C'est en tout cas ce qu'il dit sur le site de l'Opéra.
Ah, c'est ce qu'il écrit, et je le crois.
Oui, tout à fait.
Et il a découvert Cecilia Bartoli, mais... N'oublions pas qu'il a découvert également Carl Böhm, il a découvert Eugen Jochum, Et c'est lui qui a donné sa première chance à Richard Wagner.
Alors qu'il est bien
à l'époque
connu...
où personne n'était wagnérien.
Alors qu'il est bien connu que toutes ces personnes ont été découvertes au festival de Beaune par Anne Blanchard et Kader Assisi.
Par ailleurs, et alors là, c'est quand même très important de le souligner, Christian Chaurier a été l'animateur du festival de Montreux pendant plusieurs années. Et lorsque les gens qui étaient habitués de ce festival ou se produisaient dans les grandes années, Clara Askill, et puis Radu Loupou, et puis Daniel Barenboim,
Edinou Lipati,
Jack Perlman, etc. On veut arriver les frères Kuyken,
oui. avec leur viola da braccia.
Avec leur viola da braccia et leurs cheveux qui leur dégoulinaient jusqu'à la ceinture. Ils ont cru qu'on avait transformé le festival de Montreux en compétition canine.
Voilà pour ce que nous avons aimé. Alors maintenant, on va faire le même tour de table sur ce que nous n'avons pas aimé. Mehdi, qu'as-tu détesté récemment ? À part la vieille dame qui éructait à tes côtés hier au Playel.
Frédéric Mitterrand ?
Non.
C'était ma mère.
Madame Madavi, vous qui êtes si charmante. Et pour preuve, je vous ai offert une eau pétillante au prix de 5 euros.
Oui, le micro.
Alors je rappelle que le prix de l'eau pétillante à Playel qui est servie dans une bouteille en plastique avec un gobelet en plastique est de 5 euros, mesdames et messieurs. 5 euros,
c'est quelle quantité ?
Taxes comprises.
4 litres et demi ?
33 centilitres.
Autant que ça.
Oui.
Ça fait cher le gobelet.
Ça fait cher le gobelet. Mehdi, qu'as-tu détesté ?
Tu ne m'envoies plus de vidéos de vers solitaire, alors je ne déteste plus rien. Je suis malheureux.
C'est
vrai ? Tu me négliges.
Alors peut-être peux-tu nous raconter ta mésaventure sur une table de restaurant ? Notre pauvre ami. Il faut savoir que Mehdi est contusionné. Car pour fêter son 27e anniversaire.
Mon 27e anniversaire.
Il est allé au restaurant avec des amis dans un restaurant grec.
Je me suis retrouvé dans une boîte bien connue de la rue Mazarine qui s'appelle le Don Carlos.
Ah, tout à fait.
Où tu as tes habitudes.
Moi, je suis jamais allé.
Voilà, où l'on boit des tequila paf, n'est-ce pas ? Et
il y a là plein de vieux hommes aux cheveux mous.
Exactement.
Ce n'est pas gentil de reparler de Christian Chaurier.
Et mon épouse voulait absolument danser sur une table. Il se trouve que mon épouse aime beaucoup danser sur les tables.
Et donc tu l'as suivie.
Mon épouse m'a entraîné sur la table. Puis mon épouse a voulu changer de table. Et là, elle m'a entraîné dans sa chute. Ah. Et bon, je me suis retrouvé avec un énorme œil de pigeon au-dessus de mon œil.
Pauvre Mehdi. Lawrence, qu'as-tu détesté ?
Enfin, je ne peux pas dire que j'ai détesté exactement parce que je suis parti à la première entracte, mais c'était Madame Butterfly aux Pays-Bas l'autre jour quand j'étais invité. J'ai trouvé ça un peu triste. Et voilà.
C'est pas très gay comme histoire.
Enfin, c'était triste parce que c'était peut-être un peu gay.
C'est-à-dire qu'on peut le tirer vers la farce.
Ah oui, très bien. Bonne idée.
Sylvain.
J'ai détesté énormément de choses.
Tiens.
Écoutez, qu'est-ce que j'ai détesté ? J'ai détesté votre sec. Mais malheureusement, ils l'ont donné tout d'une traite. Et donc, je n'ai pas pu partir. J'ai détesté le livre sur Maria Callas qui a été publié chez Folio.
Lire la critique de Sylvain Force pour voir qu'il n'est pas piqué des hannetons.
Et j'ai détesté ça. J'ai détesté par ailleurs la polémique sur Jean Sarkozy que je trouve indigne.
Oui. Ah voilà.
Voilà, absolument.
Absolument.
Et qui a eu des conséquences très graves puisque Nicolas Sarkozy a dit à son fils. Écoute, tu seras nommé à la présidence de cet établissement si quand même tu fais un effort et que tu dévores tes livres
élu,
de droit.
Élu.
Tu seras élu, absolument. Élu. Si tu dévores tes livres, et le pauvre garçon est à l'hôpital avec une perforation intestinale. C'est détestable.
C'est tout ?
Oui, écoute, ça fait beaucoup pour un mois.
Moi, ce que je n'ai pas aimé, donc, c'est le régime minceur de Sylvain Faure qui, pour une fois dans sa vie, a moins de tripes, pas que moi. Et cela me vexe énormément.
Oui, mon 11e kilo est en voie de disparition.
Oui. Mais l'amputation ne compte pas dans les régimes.
Non.
Nous allons
ma prothèse va très bien.
Nous allons ponctuer ce qu'avait Canem dans Salut Amical, donc à notre ami Christian Chaurier. Et surtout, nous allons vous donner rendez-vous dans un mois pour parler, entre autres, des disques de Cecilia Bartoli, du magnifique disque Forêt de Yann Beuron paru chez nos amis de Timpani, on les salue d'ailleurs, et du disque d'Ildebrando d'Arcangelo sur...
Handel.
Voilà, Handel, voilà. Donc, on vous embrasse, hein. Et surtout, on vous quitte sur cette chanson du groupe The Shins. Ça s'appelle Red Rabbits.
Hurled to the center of the earth again. The place where it's hot, love, you know it hurts to breathe in. And the watershed you balance on is begging it. Well, did he ever know, will he ever know? The trees in the moonshine are a dark lattice. See a catalog, every angle you notice. In a vacuum you are charged to record this. Make it easy on me. I can't go into this no more. It puts too many thorns on my mind. And the necessary balloon lies a corpse on the floor. We've pissed on far too many sprites. And they're all standing up for their rights. Desert floor, you've the deepest thirst. And you came to my sweet shore to indulge it. With the warning drilling eyes of an orphan. But there is not enough, there is not enough. Out of a gunny sack for red rabbits. Into the crucible to be rendered an emulsion. And we can't allow a chance they'd restore them. So we can't make it easy on you. Undaunted, you bathe in hollow cries. The boys with swollen sunburned eyes. A reward for letting nothing under the skin. So help me, I don't know. Even the score. I still owe you for the hole in the floor and the ghost in the hole. Who decides who paddles over the falls? Yeah, who makes the call? Who makes the call? From every scale.